Chapitre 3. Je me levai le lendemain de meilleure heure qu'à mon ordinaire pour me rendre chez elle. On allait la saigner. Je crus que cette saignée annonçait une maladie sérieuse et je me mis à pleurer. Elle me serra la main et me rassura. « Ce n'est rien, ma chère amie, me dit-elle. C'est une légère indisposition qui me vient d'avoir été hier fort agitée, ce qui m'a donné un peu de fièvre, et voilà tout. » Elle avait raison, la saignée calma le sang. Le lendemain, elle se porta mieux. Et ce petit dérangement de santé auquel j'avais été si sensible ne servit qu'à lui prouver ma tendresse et à redoubler la sienne, que l'état où je tombais moi-même mit bientôt à une plus forte épreuve. Elle venait de se lever l'après-midi, quand, voulant aller prendre mon ouvrage qui était sur sa table, je fus surprise d'un étourdissement qui me força d'appeler à mon secours. Il y avait dans sa chambre qu'elle et cette religieuse que j'aimais et qui m'aimait. Mademoiselle Vincent fut la plus prompte et accourut à moi. Mon étourdissement se passa et je m'assis. Mais de temps en temps, il recommençait. Je me sentis même une assez grande difficulté de respirer, enfin des pesanteurs et un accablement total. La religieuse me tâta le pouls, parut inquiète, ne me dit rien qui m'alarma, mais me conseilla d'aller me mettre au lit. Et sur le champ, Mademoiselle Barton et elle me menèrent chez moi. Je voulais tenir bon contre le mal et me persuader que ce n'était rien, mais il n'y eut pas moyen de résister, je n'en pouvais plus. Il fallut me coucher et je les priai de me laisser. À peine sortait-elle de ma chambre qu'on m'apporta un billet de Madame de Mirand qui n'était que de 2 lignes. Je n'ai pu te voir ces 2 jours-ci. N'en sois point inquiète, ma fille. J'irai demain te prendre à midi. N'y a-t-il que celui-là, ma sœur ? Dis-je, après l'avoir lu à la converse qui me l'avait apporté. C'est que je croyais que Valville aurait pu m'écrire aussi, et qu'assurément, il n'avait tenu qu'à lui. Mais il n'y avait rien de sa part. Non, répondit cette fille à la question que je lui faisais. C'est tout ce que vient de remettre à la tourière un laquais qui attend. Avez-vous quelque chose à lui faire dire, mademoiselle ? Apportez-moi, je vous prie, une plume et du papier, lui dis-je. Et voici ce que je répondis, tout accablé que j'étais. Je rends 1000 grâces à ma mère de la bonté qu'elle a de me donner de ses nouvelles. J'avais besoin d'en recevoir. Je viens de me coucher, je suis un peu indisposé. J'espère que ce ne sera rien et que demain je serai prête. J'embrasse les genoux de ma mère. Je n'aurais pu en écrire davantage quand je l'aurais voulu. Et 2 heures après, j'avais une fièvre si ardente que la tête s'embarrassa. Cette fièvre fut suivie d'un redoublement qui, joint à d'autres accidents compliqués, fit désespérer de ma vie. J'eus le transport au cerveau. Je ne reconnus plus personne. Ni Mademoiselle Barton, ni mon amie la religieuse, pas même ma mère qui eut la permission d'entrer et que je ne distinguais des autres que par l'extrême attention avec laquelle je la regardais sans lui rien dire. Je restai à peu près dans le même état 4 jours entiers, pendant lesquels je ne sus ni où j'étais, ni qui me parlait. On m'avait saigné, je n'en savais rien. La fièvre baissa le 5e. Les accidents diminuèrent. La raison me revint, et le premier signe que j'en donnais, c'est qu'en voyant Madame de Mirand, qui était au chevet de mon lit, je m'écriai « Ah ! Ma mère !» Et comme alors elle avançait sa main, dans l'intention de me faire une caresse, je tirai le bras hors du lit pour la lui saisir et la portai à ma bouche que je tins longtemps collée dessus. Mademoiselle Barton et quelques religieuses étaient autour de mon lit. La première paraissait extrêmement triste. « J'ai donc été bien mal, leur dis-je, d'une voix faible et presque éteinte. Je vous ai sans doute causé bien de la peine. Oui, ma fille, me répondit madame de Mirand. Il n'y a personne ici qui ne vous ait donné des témoignages de son bon cœur, mais grâce au ciel, vous voilà réchappé. Mademoiselle Varton s'approcha, me serra avec amitié le bras que j'avais hors du lit, et me dit quelque chose de tendre, à quoi je ne répondis que par un sourire et par un regard qui lui marquait ma reconnaissance. 2 jours après, je fus entièrement hors de danger, et je n'avais plus de fièvre, il ne restait seulement une grande faiblesse qui dura longtemps. Madame de Mirand n'avait eu la permission de me voir qu'en conséquence de l'extrême péril où je m'étais trouvé, et elle s'abstint d'entrer dès qu'il fut passé. Mais jamais une chose, c'est que le lendemain du jour où je reconnus ma mère, je fis réflexion que je pouvais redevenir tout aussi malade que je l'avais été, et que je n'en réchapperais peut-être pas. Je songeai ensuite à ce contrat de rente que m'avait laissé M. de Climal. Et à qui appartiendrait-il si je mourais, me disais-je. Il serait sans doute perdu pour la famille, et la justice aussi bien que la reconnaissance veulent que je le lui rende. Et pendant que cette pensée m'occupait, il n'y avait qu'une sœur converse dans ma chambre. Mademoiselle Varton, qui ne me quittait presque pas, n'était point encore venue et peut-être pas levée. Les religieuses étaient au chœur et je me voyais libre. « Ma sœur, dis-je à cette converse, on a désespéré de ma vie ces jours passés. Ma fièvre est de beaucoup diminuée, mais il n'est point sûr qu'elle ne me reprenne pas avec la même violence. À tout hasard, faites-moi le plaisir de me soulever un peu et de m'apporter de quoi écrire 2 lignes qu'il est absolument nécessaire que j'écrive. « Eh, Jésus-Maria, à quoi est-ce que vous allez rêver, mademoiselle ?» me dit cette converse. « Vous me faites peur, il me semble que vous vouliez faire votre testament. Savez-vous bien que vous offensez Dieu d'aller-vous mettre ces choses-là dans l'esprit, au lieu de le remercier de la grâce qu'il vous fait d'être mieux que vous n'étiez ?» « Non, ma chère sœur, ne me refusez pas, lui répartis-je. Il ne s'agit que 2 lignes, il ne faut qu'un instant. »« Eh, mon Dieu !» reprit-elle en se levant. « Je m'en fais une conscience. Me voilà toute tremblante avec vos 2 lignes. »« Tenez, êtes-vous bien ? » ajouta-t-elle en me mettant sur mon séant. « Oui, lui dis-je, approchez-moi l'écritoire. » La mienne était garnie de tout ce qu'il fallait, je me hâtai de finir avant que personne arrivât. Je donne à madame de Mirand, à qui je dois tout, le contrat que défunt monsieur de Climal, son frère, a eu la charité de me laisser. Je donne aussi à la même dame tout ce que j'ai en ma possession pour en disposer à sa volonté. Je signai ensuite Marianne, et je gardai le billet que je mis sous mon chevet, dans le dessein de le remettre à ma mère quand elle serait venue. Elle ne tarda pas, et à peine y avait-il un quart d'heure que mon petit codicille était écrit qu'elle arriva. « Eh bien, ma fille, comment es-tu ce matin ?» me dit-elle en tâtant le pouls. « Encore mieux qu'hier, ce me semble, et je te crois guérie. Il ne te faut plus que des forces. » Je pris alors mon petit papier et le lui glissai dans la main. « Que me donnes-tu là ? » s'écria-t-elle, « voyons. » Elle l'ouvrit, le lut et se mit à rire. « Mais que tu es folle, ma pauvre enfant, me dit-elle. Tu fais des donations et tu te portes mieux que moi. » Elle avait quelque raison de dire cela car elle était fort changée. « Va, ma fille, tu as tout l'air de te faire ton testament de longtemps. Il n'y serait plus quand tu le feras, » ajouta-t-elle en déchirant le papier qu'elle jeta dans ma cheminée. « Garde ton bien pour mes petits-fils. Tu n'auras pas d'autres héritiers, je l'espère. » « Et pourquoi dites-vous que vous n'y serez plus, ma mère ? Il vaudrait donc mieux que je mourusse aujourd'hui, » lui répondis-je, la larme à l'œil. « Paix, me repartit-elle, n'est-il pas naturel que je finisse avant vous ? Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est l'extravagance de votre papier qui est cause de ce que je vous dis là. Mais songeons à vivre et hâte-toi de guérir, de peur que Valvine ne soit malade. Je t'avertis qu'il ne s'accommode point de ne plus voir. Notez que je lui en avais toujours demandé des nouvelles. Elle en était là quand Mademoiselle Barton et le médecin entrèrent. Celui-ci me trouva fort tranquille et hors d'affaire, à ma faiblesse près, de façon que ma mère ne vint plus et se contenta, les jours suivants, d'envoyer savoir comment je me portais ou de passer au couvent pour la prendre elle-même, et le lendemain, ce fut Valville qui vint de sa part. Je n'ai pas songé à vous dire que Madame de Miran, durant ses visites, avait toujours extrêmement caressé Mademoiselle Barton, et qu'il était arrêté que nous irions, cette belle étrangère et moi, dîner chez elle aussitôt que je pourrais sortir. Or, ce fut à cette demoiselle que Valville demanda à parler, tant pour s'informer de mon état et pour lui faire à elle-même des compliments de la part de sa mère, que pour s'acquitter d'un devoir de politesse envers cette jeune personne à qui la bienséance voulait qu'il s'intéressât depuis le service qu'il lui avait rendu. Mademoiselle Harton était dans ma chambre lorsqu'on vint l'avertir qu'on souhaitait lui parler de la part de Madame de Miran, sans lui dire qui c'était. « C'est apparemment vous que cela regarde, me dit-elle en me quittant pour aller au parloir. » Et je ne doutais pas, en effet, que je ne fusse l'objet ou de la visite ou du message. Il est pourtant vrai que Valville n'avait point d'autre commission que celle de s'informer de ma santé, et que ce fut lui qui imagina de demander Mademoiselle Barton, à qui ma mère lui avait simplement dit de faire faire ses compliments, et voilà tout. Il se passa bien une demi-heure avant que Mademoiselle Barton revînt. Vous remarquerez qu'il n'avait plus été question avec elle de la suite de mes aventures, depuis le jour où je lui en avais conté une partie, et qu'elle ignorait totalement que j'aimais Valville et que je devais l'épouser. Elle avait été indisposée dès le jour de son entrée au couvent, 2 jours après que j'étais tombé malade. Il n'y avait pas eu moyen d'en revenir à la continuation de mon histoire. « Comment donc ?» me dit-elle en rentrant d'un air content. « Vous ne m'avez pas dit que ce jeune homme, d'une si jolie figure, qui me secourut avec vous dans mon évanouissement, était le fils de Madame de Miran, que j'ai vu depuis si souvent ici et qui vous aime tant ? Savez-vous bien que c'est lui qui m'attendait dans le parloir ?»« Qui, Monsieur de Valville ?» répondis-je avec un peu de surprise. Et que vous voulait-il? Vous avez été bien longtemps ensemble. Ou un quart d'heure à peu près, reprit-elle. Bon, il venait, comme on me l'a dit, de la part de sa mère, savoir comment vous vous portez. Elle l'avait aussi chargé de quelques compliments pour moi, et il a cru de son côté me devoir une petite visite de politesse. Il avait raison, lui répondis-je d'un air assez rêveur. « Ne vous a-t-il point donné de lettres pour moi ? Madame de Miran ne m'a-t-elle point écrit ?»« Non, me dit-elle, il n'y a rien. » Là-dessus, quelques pensionnaires de mes amis entrèrent, qui nous firent changer de conversation. Je ne laissais pas que d'être étonné que Madame de Miran ne m'eût point écrit, non pas que son silence m'inquiétât, ni que j'attendisse une lettre d'elle, car il n'était pas nécessaire qu'elle m'écrivît. Je l'avais vue la veille. On lui apprenait que je me portais toujours de mieux en mieux, et il suffisait bien qu'elle envoyât savoir si cela continuait. Il n'en fallait pas davantage. Mais ce qui m'étonnait, c'est que Valville, de qui, dans des circonstances peut-être moins intéressantes, j'avais reçu de si fréquentes lettres qu'il joignait à celle que m'écrivait sa mère, ou qui m'avait si souvent écrit un mot dans celle de cette dame, ne se fût point avisé en cette occurrence de me donner de pareilles marques d'attention. Dans le fort de ma maladie, me disais-je, J'avoue que ces lettres n'auraient pas été de saison, mais j'ai pensé mourir. Me voici convalescente. Il lui est permis de m'écrire, et il ne m'écrit point. Il ne me donne aucun témoignage de sa joie. Peut-être, dans l'état languissant où je suis encore, a-t-il cru qu'il fallait s'abstenir de m'envoyer un billet à part. Mais il aurait pu, ce me semble, prier sa mère de m'en écrire un, afin d'y joindre quelques lignes de sa main, et il ne changea rien. Cette négligence me fâchait. Je ne l'y reconnaissais pas. Mais qu'est devenu Valville? Mais ce n'est plus là son cœur. Cela me chagrinait sérieusement. Je n'en revenais point. J'ai refusé jusqu'à ce jour, me dit Mademoiselle Barton, pendant que nos compagnes s'entretenaient, d'aller dîner chez une dame qui est l'intime amie de ma mère et à laquelle elle m'a recommandé. Vous étiez encore trop malade, je n'ai pas voulu vous quitter. Mais ce matin, avant que d'entrer chez vous, je lui ai enfin mandé par un laquais qu'elle m'a envoyé que j'irai demain chez elle. Je n'en me dirai pourtant si vous le souhaitez, ajouta-t-elle. Voyez, resterai-je? Je vous avertis que j'aimerais bien être avec vous. Non, non, lui répondis-je en lui prenant affectueusement la main. Je vous prie d'y aller, il faut répondre à l'envie qu'elle a de vous voir. Ayez seulement la bonté d'en revenir une demi-heure plus tôt que vous ne le feriez sans moi, et je serai contente. Mais je ne le serai pas, moi, me répartit-elle. Et vous trouverez bon que j'abrège un peu davantage. Je ne prétends point m'y ennuyer si longtemps que vous le dites. Passons donc au lendemain. Mademoiselle Barton se rendit chez cette amie de sa mère, dont le carrosse la vint chercher de si bonne heure qu'elle en murmura, qu'elle en fut de mauvaise humeur et le tout encore à cause de moi, avec qui elle était alors. Cependant, elle revint beaucoup plus tard que je ne l'attendais. Je n'ai pas été la maîtresse de quitter, me dit-elle. On m'a retenu malgré moi. Et il n'y avait rien de plus croyable. Quelques jours après, elle y retourna encore, et puis y retourna. Il le fallait, à moins que de rompre avec la dame à ce qu'elle disait, et je n'en doutais point, mais elle me paraissait en revenir avec un fond de distraction et de rêverie qui ne lui était point ordinaire. Je lui en dis un mot, elle me répondit que je me trompais, et je n'y songeais plus. Je commençais alors à me lever, quoique encore assez faible. Ma mère envoyait tous les jours au couvent pour savoir comment je me portais. Elle m'écrivit même une ou deux fois, mais de lettres de Valville, pas une. Mon fils est bien impatient de te revoir. Mon fils te querelle d'être si longtemps convalescente. Mon fils devait mettre quelques lignes dans le billet que je t'écris. Je l'attendais pour cela, mais il se fait tard, il n'est pas revenu, et ce sera pour une autre fois. Voilà toutes les nouvelles que je recevais de lui. Oh, j'en fus si choqué et si aigri que dans mes réponses à ma mère, je ne fis plus aucune mention de lui. Dans ma dernière, je lui marquai que je me sentais assez de force pour me rendre au parloir si elle voulait avoir la bonté d'y venir le lendemain. Je ne suis malade que du seul ennui de ne point voir ma chère mère, ajoutai-je. Qu'elle achève donc de me guérir, je l'en supplie. Je ne doutais point qu'elle ne vînt, et elle n'y manqua pas. Mais nous ne prévoyions ni l'une ni l'autre la douleur et le trouble où elle me trouva le lendemain. La veille de ce jour, je me promenais dans ma chambre avec Mademoiselle Barton. Nous étions seuls. Vous crûtes vous apercevoir il y a quelques jours que j'étais un peu rêveuse, me dit-elle. Et moi, je m'aperçois aujourd'hui que vous l'êtes beaucoup. Vous avez quelque chose dans l'esprit qui vous chagrine. Et je suis bien trompée si hier matin, vous ne veniez pas de pleurer lorsque j'entrais chez vous. Oh, je ne vous demande point de quoi il s'agit, ma chère compagne, mais dans la situation où je suis, je ne puis vous être bonne à rien, mais votre tristesse m'inquiète. J'en crains les suites. Songez que vous sortez de maladie et que ce n'est pas le moyen de revenir en parfaite santé que vous livrez à des pensées fâcheuses. Notre amitié veut que je vous le dise, et je n'irai pas plus loin. Hélas, je vous assure que vous me prévenez, lui répondis-je. Je n'avais point dessein de vous cacher ce qui me fait de la peine. Mon cœur n'a rien de secret pour vous, mais il n'y a pas longtemps que je suis bien sûr d'avoir sujet d'être triste. Et la journée ne serait pas passée sans que je vous eusse tout confié. Je n'aurais eu garde de me refuser cette consolation-là. Oui, mademoiselle, repris-je après m'être interrompu par un soupir. Oui, j'ai du chagrin. Je vous ai déjà raconté la plus grande partie de mon histoire. Ma maladie m'a empêché de vous dire le reste. Et le voici en deux mots. Madame de Mirand est cette dame que, s'il vous en souvient, je vous ai dit que j'avais rencontrée. Vous avez été témoin de ses façons avec moi. On la prendrait pour ma mère, et depuis le premier instant où je l'ai vue, elle en a toujours agi de même. Mais ce n'est pas là tout. Ce monsieur de Vanneville, qui vous vint voir l'autre jour. Eh bien, ce monsieur de Vanneville, me dit-elle, sans me donner le temps d'achever. Est-ce qu'il vous est contraire? Serait-il mauvais gré à sa mère de l'amitié qu'elle a pour vous? Non, lui dis-je, ce n'est point cela. Écoutez-moi. Monsieur de Valleville est le jeune homme dont je vous ai parlé aussi, chez qui on me porta après ma chute, et qui prit dès lors pour moi la passion la plus tendre, une passion dont je n'ai pu douter. Bien plus, madame de Mirand sait qu'il m'aime et que je l'aime aussi. Sait qu'il veut m'épouser et, malgré mes malheurs, consent elle-même à notre mariage qui doit se faire au premier jour, qui a été retardé par hasard et qui peut-être ne se fera plus. J'ai du moins lieu d'en désespérer par la conduite que Valleville tient actuellement avec moi. Mademoiselle Varton ne m'interrompait plus. Écoutait d'un air morne, baissait la tête, et même ne me regardait pas. Je ne la voyais que de côté, et cette contenance qu'elle avait, je l'attribuais à la simple surprise que lui causait mon récit. « Vous savez de quel danger je sors, continuai-je. Je viens d'échapper à la mort. Avant ma maladie, jamais sa mère ne m'écrivait le moindre billet qui n'en joignit un au sien, ou qui ne m'écrivit quelque chose dans sa lettre. Et ce même homme qui m'a accoutumé à le voir si tendre, si attentif, lui qui a pensé me perdre, qui a dû être si alarmé de l'état où j'étais, lui qu'à peine j'aurais cru assez fort pour supporter ses frayeurs sur mon compte, qui a dû être si transporté de joie de me voir hors de péril, croyez-vous, mademoiselle, que je suis encore à recevoir de ses nouvelles, qui ne m'a pas écrit le moindre petit mot, lui qui m'aimait tant, pas un billet. Mais cela est-il naturel? Que veut-il que j'en pense, et que penseriez-vous à ma place? Je m'arrêtai là-dessus un moment. Mademoiselle Varton aussi. Mais elle me laissait toujours un peu derrière elle, restait muette, et ne retournait pas la tête. « Mais pas une lettre, répétai-je, lui qui m'en a tant prodigué dans des occasions moins pressantes. Encore une fois, le croiriez-vous? Est-ce que sa tendresse diminue? Est-il inconstant? Est-ce que je perds son cœur au lieu de la vie que j'aimerais mieux avoir perdue? Mon Dieu, oh que je suis agité! Mais dites-moi, mademoiselle, il me vient une chose dans l'esprit. Ne serait-il pas malade? Madame de Mirand, qui sait que je l'aime, ne me le cacherait-elle point? Elle m'aime beaucoup si elle peut avoir peur de m'affliger. N'auriez-vous pas la même bonté qu'elle? Cette visite que vous dites avoir reçue de M. de Valleville, ne vous aurait-on pas engagé à la feindre pour m'empêcher de soupçonner la vérité? Car il me paraît impossible qu'il soit si négligent, et je vous assure que je serais moins affligé de le savoir malade. Il est jeune, il reviendra, mademoiselle. Au lieu que s'il était inconstant, il n'y aurait plus de remède. Aussi ce dernier motif d'inquiétude est pour moi bien plus cruel que l'autre. Avouez-moi donc sa maladie, je vous en conjure. Vous me tranquilliserez. Avouez-la de grâce. Je serai discrète. » Elle se taisait. Alors, impatienté de son silence, je l'arrêtai par le bras et me mis vis-à-vis d'elle pour l'obliger à me parler. Mais jugez de mon étonnement quand, pour toute réponse, je n'entendis que des soupirs et que je ne vis qu'un visage baigné de pleurs. « Ah, Seigneur !» m'écriai-je en pâlissant moi-même. « Vous pleurez, mademoiselle, mais qu'est-ce que cela signifie ?» Et je lui demandai ce que mon cœur devinait déjà. Oui, oui, j'en eus tout d'un coup un pressentiment. J'ouvris les yeux. Tout ce qui s'était passé pendant son évanouissement me revint dans l'esprit et m'éclaira. Nous étions alors auprès d'un fauteuil dans lequel elle se jeta. Je me mis auprès d'elle et je pleurais aussi. « Achevez, lui dis-je, ne me déguisez rien. Oh, ce ne serait pas la peine, je crois, vous entendre. Où avez-vous vu M. de Valleville? L'indigne, est-il possible qu'il ne m'aime plus ?»« Hélas, ma chère Marianne, me répondit-elle, que n'ai-je su plus tôt tout ce que vous venez de me dire ?»« Eh bien, insistai-je, après, parlez, franchement. » Est-ce que vous m'avez ravi son cœur ? Dites donc qu'il m'en coûte le mien, répondit-elle. Quoi ? Criai-je encore. Il vous aime donc et vous l'aimez ? Oh, que je suis malheureuse ! Mais nous sommes toutes deux à plaindre, me dit-elle. Il ne m'a point parlé de vous. Je l'aime et je ne le verrai de ma vie. Oh, mais il ne m'en aimera pas davantage, lui répondis-je. En versant à mon tour un torrent de larmes, il ne m'en aimera pas davantage. Ah, mon Dieu, où en suis-je et que ferai-je? Hélas, ma mère, je ne serai donc point votre fille. C'est donc en vain que vous avez été si généreuse. Quoi, vous, monsieur de Valleville, vous, infidèle pour Marianne, après tant d'amour, vous l'abandonnez. Et c'est vous, mademoiselle, qui me l'ôtez, vous qui avez eu la cruauté de m'aider à guérir, et que me laissiez-vous mourir. Comment voulez-vous que je vive? Je vous ai donné mon cœur à tous deux, et tous deux vous me donnez la mort. Ah, je ne survivrai pas à ce tourment-là, je l'espère. Dieu m'en fera la grâce, et je sens que je me meurs. « Ne me reprochez rien, me dit-elle d'un ton plein de douleur. Je ne suis pas capable d'une perfidie, je vous conterai tout. Il m'a trompé. »« Il vous a trompé, répartis-je. Et pourquoi l'écoutiez-vous, mademoiselle? Pourquoi l'aimer? Pourquoi souffrir qu'il vous aimât? Votre mère venait de partir. Vous étiez dans l'affliction et vous avez le courage d'aimer. D'ailleurs, il n'était point mon frère, vous le saviez. Vous nous aviez trouvés ensemble. Il est aimable et je suis jeune. Était-il si difficile de soupçonner que nous nous aimions peut-être? Et quelle excuse avez-vous? Mais encore une fois, où l'avez-vous vu? Vous vous connaissiez donc? Comment avez-vous fait pour m'arracher ma tendresse? On n'en avait jamais eu tant qu'il en avait. Et jamais il n'en trouvera tant que j'en avais moi-même. Il me regrettera, mais je n'y serai plus. Il se souviendra combien je l'aimais. Il pleurera ma mort. Vous aurez la douleur de le voir. Vous vous reprocherez de m'avoir trahi. Et jamais vous ne serez heureuse. « Moi, vous avoir trahi ?» me répondit-elle. « Et ma chère Marianne, vous avouerai-je que je l'aime si je n'avais pas moi-même été surprise ? Et ne vais-je pas être la victime de tout ceci? Tâchez de vous calmer un moment pour m'entendre. Vous avez le cœur trop bon pour être injuste, et vous l'êtes. Vous allez en juger par ma sincérité. Je n'avais jamais vu Malville avant la faiblesse dans laquelle je tombais au départ de ma mère. Vous savez qu'il me secourut avec empressement. Et dès que je fus revenu à moi, le premier objet qui me frappa, ce fut lui qui était à mes genoux. Il me tenait la main. Je ne sais si vous remarquâtes les regards qu'il jetait sur moi. Toute faible que j'étais, j'y pris garde. Où il était aimable, vous en convenez. Je le trouvais de même. Il ne cessa presque point d'avoir les yeux sur moi jusqu'au moment où je m'enfermais. Et par malheur, rien de tout cela ne m'échappa. Mais j'ignorais qui il était. Ce que vous me contâtes de votre histoire ne me l'apprit point. Il est vrai que je pensais quelquefois à lui, mais comme à quelqu'un que je ne croyais pas revoir. On vint quelques jours après m'avertir qu'une personne qu'on ne nommait pas souhaitait de me parler de la part de Madame de Miran. J'étais avec vous alors. Je descendis, et c'était lui qui m'attendait. Je rougis en le voyant. Il me parut embarrassé, et son embarras me rendit honteuse. Il me demanda en souriant si je le reconnaissais, s'il n'avait pas oublié que je l'avais vu. Il me dit que mon évanouissement l'avait fait trembler, que de sa vie il n'avait été si attendri que de l'état où il m'avait vu, qu'il l'avait toujours présent, que son cœur en avait été frappé, et tout de suite me conjura de lui pardonner la naïveté avec laquelle il s'expliquait là-dessus. Pendant qu'elle me parlait ainsi, elle ne s'apercevait point que son récit me tuait. Elle n'entendait ni mes soupirs ni mes sanglots. Elle pleurait trop elle-même pour y faire attention. Et tout cruel qu'était ce récit, mon cœur s'y attachait pourtant et ne pouvait renoncer au déchirement qu'il me causait. Et moi, continua-t-elle, je fus si émue de tous ces discours que je n'eus pas la force de les arrêter. Il ne me dit pourtant point qu'il m'aimait, mais je sentais bien que ce n'était que cela qu'il me voulait dire. Et il me le disait d'une façon dont il n'aurait pas été raisonnable de me fâcher. J'ai tenu cette belle main que je vois dans les miennes, ajouta-t-il encore. Je l'ai tenue. Vous me vîtes à vos genoux quand vous commençâtes à ouvrir les yeux. J'eus bien de la peine à m'en ôter, et je m'y jette encore toutes les fois que j'y pense. Ah, Seigneur, il s'y jette, m'écriai-je ici. Il s'y jetait pendant que je me mourais. Hélas, je suis donc bien effacé de son cœur. Il m'a jamais rien dit de si tendre. Je ne me rappelle plus ce que je lui répondis, poursuivit-elle. Tout ce que je sais, c'est que je finis par lui dire que je me retirais et qu'un pareil entretien n'avait que trop duré. Et il s'excusa avec un air de soumission et de respect qui m'apaisa. Je m'étais déjà levé, il me parla de ma mère, et puis de l'envie que la sienne avait de me voir chez elle. Il me parla encore de Madame la marquise de Quilnard, qui ne doutait point que je le connusse, et dont il me dit qu'il était fort connu aussi. Et cette dame est chez qui j'ai été 3 ou 4 fois depuis votre convalescence. Il ajouta qu'il voyait assez souvent un de ses parents, et qu'ils devaient, je pense, souper ce même soir ensemble. Enfin, lorsque j'allais le quitter, j'oubliais, me dit-il, une lettre que ma mère m'a chargée de vous remettre de sa part, mademoiselle. Il rougit en me la présentant. Je la pris, croyant de bonne foi qu'elle était de Madame de Miran, et point du tout. Dès qu'il fut sorti, je vis qu'elle était de lui. Je l'ouvris en revenant chez vous, dans l'intention de vous l'apporter. Oh, je n'en fis pourtant rien. Et vous y verrez la raison qui m'en empêcha. Elle tira alors cette lettre de sa poche, me la donna toute ouverte et me dit « Lisez ». Je la pris d'une main tremblante et je n'osais en regarder le caractère. À la fin pourtant, je jetai les yeux dessus, et la bouillant de mes larmes. Il écrit, mais ce n'est plus à moi, dis-je, mais ce n'est plus à moi. Je fus si pénétré de cette réflexion, j'en eus le cœur si serré, que je fus longtemps comme étouffé par mes soupirs, et sans pouvoir commencer la lecture de cette lettre, qui était courte, et dont voici les termes. « Depuis le jour de votre accident, mademoiselle, je ne suis plus à moi. En venant ici aujourd'hui, j'ai prévu que mon respect m'empêcherait de vous le dire, mais j'ai prévu aussi que mon trouble et mes regards timides vous le diraient. Vous m'avez vu en effet trembler devant vous, et vous avez voulu vous retirer sur le champ. Je crains que cette lettre-ci ne vous irrite aussi. Cependant, mon cœur n'y sera pas plus hardi qu'il l'a été tantôt. Il y tremble encore, et voici simplement de quoi il est question. Vous aurez sans doute accordé votre amitié à mademoiselle Marianne. Et il y a quelque apparence qu'au sortir du parloir, vous irez lui confier votre étonnement, hélas, peut-être votre indignation sur mon compte. Et vous me nuirez auprès de ma mère, que j'instruirai moi-même dans un autre temps, mais qui ne serait pas à propos qu'on instruit aujourd'hui, et à qui pourtant mille Marianne conférerait tout. J'ai cru devoir vous en avertir. Mon secret m'est échappé. Je vous adore, je n'ai pas osé vous le dire, mais vous le savez. Il ne serait pas temps qu'on le sût, et vous êtes généreuse. Remettons la suite de cet événement à la huitième partie, madame. Je vous en ôterai l'intérêt si j'allais plus loin sans achever. Mais l'histoire de cette religieuse que vous m'avez tant de fois promise, quand viendra-t-elle, me dites-vous? Oh, pour cette fois-ci, voilà sa place. Je ne pourrai plus m'y tromper. C'est ici que Marianne va lui confier son affliction, et c'est ici qu'à son tour, elle essaiera de lui donner quelques motifs de consolation en lui racontant ses aventures.